Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Dans les pays tropicaux, l'environnement est étroitement lié à la recrudescence de certaines maladies. C'est le cas de maladies telles que la trypanosomiase humaine africaine, appelée couramment maladie du sommeil, ou encore les paludismes, plus connus sous le nom de malaria. Alors, quelles sont les différentes maladies, quelles sont les maladies tropicales les plus courantes en RDC? Quel est le lien entre ces maladies et l'environnement? Que faire pour le prévenir? Je disais en sommaire de cette deuxième partie de l'émission, Capi Service, on en parle avec le professeur Didier Bompangoué, spécialiste en écologie de maladies infectieuse. Nous rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé. Appelez au 081 890 63 94. Voilà, professeur, merci de nous avoir fait le plaisir de répondre à notre invitation et d'être avec nous dans ce studio pour aborder ces questions sur les maladies tropicales et l'environnement. Donc, qu'il faut-il d'abord comprendre par maladie tropicale?
Merci beaucoup pour votre invitation et pour l'opportunité que vous nous accordez d'échanger avec vous sur ce thème important. Voilà, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est un ensemble de maladies dont l'importance a été un peu remise sur la table aujourd'hui avec cette idée de l'OMS de centrer aujourd'hui la recherche sur les maladies tropicales essentiellement négligées. Et la liste est longue, mais je citerai celles que nous retrouvons la plupart du temps ici chez nous au pays, en partant des certaines qui sont les plus connues vers d'autres moins bien connues. Donc nous avons, comme vous l'avez cité tout à l'heure, parlé de la trypanosomiase humaine africaine, nous avons parlé du paludisme, de la tuberculose, on parle également du choléra et d'autres encore moins connues comme la bilharziose, l'oncocercose, pour aussi citer le pion. Donc voilà, toutes ces maladies qui sont pour la plupart dues à des germes infectieux comme des bactéries, des virus ou des champignons.
Alors, on peut directement savoir quel est le lien entre ces maladies et l'environnement.
Ben, en fait, le lien, en fait, ce qu'on observe globalement, c'est que en réalité, l'homme n'est qu'un élément en fait d'un complexe environnemental global dans lequel on trouve le milieu physique, l'homme lui-même, et puis tout ce qui nous entoure. Alors, pour devenir malade, on doit être en contact d'un germe infectieux, une bactérie, un virus ou un
germe infectieux, c'est-à-dire des microbes,
avec un microbe. Alors donc, mais en réalité, c'est l'ensemble de nos comportements, c'est l'ensemble de notre organisation de vie qui nous met en contact avec ces êtres microscopiques qui ont aussi en fait le droit d'exister. Nous ne sommes pas les seuls à vivre sur la planète. Oui. Mais seulement, nous avons souvent une vision de nous, en tant qu'humains, de nous considérer comme étant le centre de tout. Et ce qui fait que, bon, nous les considérons comme des êtres nuisibles. Mais en réalité, quelquefois, ce sont nos comportements qui, au fait, nous mettent en situation d'être en contact avec ces germes et de devenir malade.
Alors, prenons un peu avec un exemple, professeur. Prenons le cas du paludisme au malaria. Ouais. C'est quoi ce lien qui fait que, compte tenu de tel ou tel autre aspect en ce qui concerne l'environnement, cela peut avoir un impact sur le fait qu'il y a beaucoup de cas de malaria?
Oui. Alors, pour commencer, quelques petits chiffres déjà pour poser les faits. Donc, globalement, l'Organisation mondiale de la santé estime que dans un de ses rapports de début des années 2000, oui, que 21% des maladies globalement sont liées à une mauvaise gestion de l'environnement. Alors, pour venir particulièrement au paludisme, on pense que 40% des décès qui sont dus au paludisme sont liés à des causes évitables par une meilleure gestion de l'environnement. Et aussi 13% dans le monde. Donc 40% des décès, c'est c'est ce qu'il y a au paludisme, mais en dehors du paludisme, globalement, 13 millions de personnes, d'après l'OMS, on estime que 13 millions de personnes décèdent dans le monde par le fait d'une négligence de la gestion de l'environnement. Donc voilà, maintenant, après ces chiffres, ce que j'ai envie de vous dire sur le paludisme globalement, c'est que voilà, c'est la multiplication, voilà, c'est la multiplication des piqûres de moustiques qui va nous mettre en contact avec, qui va nous augmenter le risque pour nous d'avoir la maladie. Donc tout ce que nous allons faire comme activité, comme comportement qui va empêcher les moustiques de se reproduire. Puis une fois qu'ils se sont reproduits, va les empêcher d'être en contact avec l'homme et de piquer, va nous éviter la maladie.
Donc, et justement, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pour le moustique? Il faut éviter tous les lieux où le moustique se reproduise. Par exemple, ils doivent bien assainir les milieux.
Là, on doit assainir les milieux. On doit éviter d'avoir les gîtes autour de nous. On doit éviter d'avoir tout ce qui est les endroits possibles où les moustiques peuvent pondre leurs œufs et puis se multiplier. Et de l'autre côté, c'est tout le comportement qui nous évite d'être piqué, comme de dormir dans des moustiquaires imprégnés, ou en fait, si on se retrouve dans des endroits où on n'a pas suffisamment de moustiquaires, avoir des maisons qui sont protégées, assainies de l'intérieur. Donc toutes les mesures d'assainissement de notre milieu, toutes les mesures de protection, c'est ça qui va nous permettre d'éviter en fait d'être malade.
Donc vous pensez que pour réduire certaines de ces maladies tropicales, le cas par exemple du paludisme, il faut davantage sensibiliser la population, c'est l'important de l'assainissement du milieu.
Ben, au fait, les mesures sont à plusieurs niveaux. Il y a des mesures individuelles. Donc, ce que nous devons faire, nous tous, avoir des comportements, je pourrais dire, écologiquement protecteurs. Donc, avoir des réflexes protecteurs. Donc, évitons de jeter des boîtes, d'essayer de ça dans tous les sens.
On leur dit, il faut tout le temps, il faut le trouver. Il faut pas, lorsque vous avez déjà les boîtes de conserve, par exemple, il faut pas les laisser comme ça. Il faut le trouver de manière à éviter que l'eau puisse stagner à des dents. Pareil, il semblerait que c'est des gîtes comme ça de reproduction de moustiques. Éviter également de herbes.
C'est une mesure, donc à l'échelle individuelle, donc tout ce qui va empêcher d'avoir des gîtes de reproduction. Et puis il y a des mesures qui sont un peu plus au niveau, pas de l'individu, mais au niveau plus global des décideurs. Donc vous savez, à l'époque coloniale, toutes les mesures qui étaient prises pour éviter, pour avoir des quartiers assainis, aujourd'hui nous avons une mesure globale qui nous dit que tous les samedis on doit faire ce qu'on appelle
le salon,
mais je sais pas combien de gens font cela exactement autour de nous. Après, il y a des mesures qui demandent un peu plus de moyens. On peut pas penser vivre dans une ville de 10 millions d'habitants sans des mesures d'évacuation, des ordures et tout ça. Le nombre de personnes que nous sommes dans cette ville, la quantité d'ordures qui sont produites tous les jours, même si les gens se mettaient à enfouir ou à brûler, on pourra pas. Donc ça veut dire qu'il faut des mesures qui sont au-delà des individus. Et là, c'est toute la gouvernance global qu'il va falloir penser. Puis de l'autre part, il y a...
Donc pour l'instant, il faut dire qu'il y a deux failles à ce sujet, c'est-à-dire que au niveau de... Parce que vous avez dit déjà au niveau de individuel, il faut dire également que la population, même si on n'arrête pas deux fois de sensibiliser la population, mais il y a beaucoup qui se donnent pas la peine d'assainir les milieux. Et puis au niveau, par exemple, du gouvernement, on prend pas suffisamment de mesures pour aussi à assainir l'environnement de la vie, de notre vie au quotidien.
Ah oui, je pense que il s'agit de partir des faits, et essayer de les expliquer et voir quelles sont les failles, qu'est-ce qui n'est pas fait, sans pourtant forcément stigmatiser telle ou telle personne ou telle échelle ou telle autre échelle. Mais ce qu'on peut constater, c'est que il y a vraiment des soucis au niveau individuel, au niveau de nos comportements. Regardons nos réflexes tous les jours ce que nous essayons, ce que nous faisons, et que chacun de nous comprenne qu'il y a une responsabilité individuelle. Après, au-delà de la responsabilité individuelle, il y a le niveau beaucoup plus collectif de ceux qui ont la gestion des petites communautés, des quartiers, puis on monte petit à petit jusqu'à l'échelle de la ville. Donc les questions d'environnement ne peuvent pas se penser uniquement au niveau des individus, mais à un certain moment, ça devient un problème vraiment de gouvernance à une échelle beaucoup plus globale, et ça, il faut que l'ensemble de ces mesures se conjuguent pour espérer avoir des effets qui modifient la situation.
Voilà, on va poursuivre avec vous, professeur Didier Bompangwe. Vous êtes spécialiste en écologie des maladies infectieuses. Avec vous, nous parlons de l'influence de l'environnement sur les maladies tropicales. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Maître John Kilima nous appelle de Kindu. Si vous êtes également intéressé, vous avez des questions à poser. Les numéros d'appel, c'est les 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Maître John Kilima, vous nous appelez de Kindu. Bonjour.
Bonjour, Marcel. Bonjour, Capi, à tous les auditeurs. Bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai fini à l'université, j'ai fait les droits, en tout cas le sujet m'intéresse beaucoup, je suis profane à la matière. Quand j'entends parler des maladies tropicales, j'ai voulu profiter de l'occasion du micro de la radio de la paix, si l'invité peut me citer toutes les maladies appelées tropicales, et quelles sont les mesures à prendre pour... Donc les mesures préventives pour ne pas être atteint par ces maladies-là, toutes les maladies tropicales.
Merci Maître John Depuy à Kindo. Restez dans cette même ville. On va retrouver cette fois-ci un ingénieur. Il s'agit de l'ingénieur Serge Kingi. Bonjour ingénieur.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour l'invité du jour.
On vous écoute.
Oui, je veux juste que l'invité nous avons la différence entre la malaria et la maladie appelée la trypanosomiase. Et ma deuxième question est de savoir, tu nous donnes d'abord l'agent causal de cette maladie-là. C'est la moustique, c'est quel insecte qui a infecté la maladie appelée la trypanosomiase. Merci.
Merci, ingénieur Serge Kingi, depuis Kindu. Alors, professeur, vous répondez d'abord à Maître John. Certainement, il nous a pris en cours de l'émission parce qu'on a commencé par ça. Vous avez cité quelques maladies tropicales. Vous avez même parlé de celles qui sont négligées. Alors, il a cherché à savoir si vous pouvez revenir sur ces différentes maladies tropicales. Et puis, est-ce qu'il y a moyen de le prévenir? Si on peut bien le prévenir, quels sont ces moyens de prévention?
Oui, alors, puisqu'il est à Kindu, je vais lui parler de celles qui vont pratiquement lui parler. Je pense que tout récemment, l'année qui vient de se terminer, ils ont eu une longue série d'épidémies de choléra. Là, par exemple, c'est une de ces maladies qui est tropicale négligée. Donc, normalement, on a parlé du paludisme tout à l'heure. Alors, pour mieux centrer mon propos et qu'ils comprennent, je vais me focaliser, par exemple, sur celle-là, oui. sur le choléra, par exemple. Une des mesures, c'est toutes les mesures, tout ce qui va permettre de ne pas consommer de l'eau polluée. Donc là, par exemple, chez eux à Kindu, généralement, quand ils ont des épidémies de choléra là-bas, c'est soit des personnes, des commerçants qui viennent, soit des provinces autour où il y a régulièrement des cas de choléra. Donc toutes les mesures qui vont assainir les déplacements à travers les baleinières qui vont arriver à Kindu à travers le train, toutes ces mesures d'assainissement, des mesures de moyens de déplacement vont éviter, par exemple, la maladie. Et si jamais on n'arrive pas à les arrêter par là et que la maladie arrive sur les lieux, eh bien, la protection des points d'eau, le fait de consommer de l'eau potable va permettre d'éviter la maladie. Si on n'a pas de la régie des eaux, ça ne fonctionne pas. Si on n'a que de l'eau disponible au niveau des sources ou du fleuve, il va falloir mettre des comprimés de chlore à l'intérieur pour la potabiliser. Voilà, par exemple, une série de mesures qui peuvent être mises en place, ou alors bouillir carrément l'eau si on est dans une zone où du bois de chauffe ou de la braise est disponible. Donc voilà, donc toutes ces mesures vont permettre d'éviter la maladie.
Donc si je comprends bien, professeur, rien qu'une bonne hygiène et un bon assainissement du milieu peut permettre d'éviter, il y a beaucoup de maladies.
Tout à l'heure, je vous disais que le médecin disait que au fait qu'il y a 21%, donc 21% de cas de maladies sont évitables uniquement par l'amélioration de l'environnement. Et si on retourne un peu plus loin dans l'histoire des maladies, on se rendra compte que avant même que les vaccins apparaissent, avant même qu'il y ait des mesures comme des antibiotiques et tout cela, simplement l'amélioration de l'hygiène avait permis considérablement d'améliorer les maladies. Donc un des cas flagrants, par exemple aujourd'hui, ça paraît banal de voir qu'aujourd'hui tout le monde admet que c'est laver les mains protège la santé, mais si on retourne dans l'histoire, on se rendra compte que juste dans les années 1845-47, le premier médecin obstétricien hongrois qui a commencé à dire il faut se laver les mains, on améliorera la santé, on évitera les morts des femmes en salle de couche, ce n'était pas quelque chose d'admis. Aujourd'hui, ça devient une banalité, mais ce n'était pas quelque chose d'admis. Et ça avait déjà complètement modifié les morts. On est parti à l'époque de 12 à 1% de morts, simplement en se lavant les mains. Donc,
voilà. Avant de répondre à la question de Serge, lui qui a cherché à savoir la différence entre malaria et trypanosomiasis humaine africaine, c'est-à-dire maladie du sommeil, nous allons accueillir Madame Mary qui nous appelle de Calémie. Bonjour Madame.
Oui, c'est Mademoiselle Mary.
Ah, bonjour Mademoiselle. On vous écoute. Quelle est votre question?
Ma question est de savoir quels sont les facteurs favorisants
des
différentes maladies tropicales.
Voilà, les facteurs favorisants de différentes maladies tropicales. Merci, mademoiselle. C'est ça votre seule question, mademoiselle Mary?
Vous dites oui, c'est la seule préoccupation.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé de Calémie. On revient à vous, professeur Didier Bompangwe, si vous d'abord voulez parler de premier auditeur de Kindu qui a cherché à savoir la différence entre malaria et maladie du sommeil.
D'accord. Ouais, je vais faire une réponse assez simple. Oui. Alors, déjà, ils sont pas causés par le même agent. Donc, tous les deux, c'est des parasites. Mais il y en a un, c'est le plasmodium. Et l'autre, c'est un trypanosome. Et il y en a un qui, c'est pas le même vecteur. Donc le même vecteur qui transmet la maladie à l'homme. Donc il y en a un, c'est un moustique, l'anophèle, et l'autre, c'est une petite mouche, donc une glossine. Donc voilà un peu la petite différence que je peux lui faire. Et puis
Où on trouve dans quel milieu on peut retrouver soit la glossine,
le paludisme, on l'a partout dans notre pays. On l'a partout, alors que la trypanosomiase, on a des régions assez spécifiques. Ici chez nous, on a parmi les zones les plus affectées aujourd'hui chez nous, c'est tout le long du fleuve autour de l'actuelle province du... Alors c'était le Bandundu, actuellement je pense que c'est la province du Maïndombe autour de Kwamout, tout ça c'est un point des plus importants. On a eu des zones aussi très affectées en mon province, ça devait être la province orientale avant, ça doit être actuellement je pense peut-être la Tchopo autour de Isangi. Hein, autour de Isangi, c'est un des points les plus importants. Et puis, on la retrouve également dans d'autres provinces, mais là, je vous cite les lieux les plus importants, alors que le paludisme, on l'a pratiquement un peu partout dans notre pays. Et puis, il y en a une qui se transmet beaucoup plus rapidement. Hein, le paludisme, vous savez, c'est très rapidement. On a la fièvre, on peut perdre beaucoup de sang, surtout si les enfants ou les femmes enceintes et puis mourir, alors que la trypanosomiase va être beaucoup plus lente et causer des lésions beaucoup plus insidieuses. Le paludisme peut se traiter beaucoup plus rapidement, quand même si on obtient un diagnostic vite, alors que la trypanosomiase, c'est beaucoup plus difficile avec un traitement lourd qui peut parfois être même plus mal que la maladie elle-même. Donc voilà un peu pour faire ça de façon simple.
Et mademoiselle Mary qui a demandé les facteurs favorisants.
La question de Mary est extrêmement intéressante et elle nous permet vraiment de balayer pratiquement ce qui constitue la complexité de ces maladies. Alors les facteurs favorisants, les premiers sont individuels, d'abord par nous-mêmes. Donc la prédisposition de chaque individu. Le deuxième, c'est lié un peu toujours aussi individuel par nos propres comportements. Nous n'agissons pas tous de la même manière. Certains comportements sont plus à risque que d'autres. Nos activités professionnelles, par exemple, quelqu'un qui va pour une maladie, par exemple, sur laquelle nous travaillons beaucoup comme le choléra, par exemple, une personne qui va se retrouver dans une ville comme Calémie et qui est tout le temps dans des activités de pêche, parce que mademoiselle est au courant dans les pêcheurs qui sont vers les quartiers comme Kataki, dans tous ces quartiers qui sont régulièrement en train d'aller au large et qui passent toute la nuit sur le lac et qui reviennent le lendemain vont avoir un peu plus de risques que d'autres. Ça, c'est un facteur de risque. Et puis, un autre facteur de risque qui est lié simplement à la région géographique dans laquelle vous habitez. Alors, par exemple, pour mademoiselle qui habite à Calémie, apprenez que Calémie est une zone, par exemple, qui est une des plus affectées par le choléra, va être beaucoup plus à risque que une autre qui, par exemple, habite, je vais prendre une autre région, ou à Popocabaca. C'est pas la même chose. C'est simplement la zone géographique. Après, d'autres raisons sont liées beaucoup plus cela à la gouvernance. Simplement, nous sommes dans une période où on a un peu plus de moyens, beaucoup d'actions sont mises, par exemple, sur la réhabilitation des réseaux d'eau. C'est une priorité nationale. Il faut mettre de l'eau. Eh bien, les populations, même des zones qui sont beaucoup plus à risque, vont être beaucoup plus protégées que si on est dans une période où il y a un délaissement des actions. Donc voilà un peu les différentes échelles où on peut retrouver des facteurs favorisants.
Après, on va prendre deux autres auditeurs en ligne. Ça sera peut-être l'occasion également pour nous de vous poser après cette question, de savoir s'il y a des maladies qui sont... C'est des personnes qui vivent peut-être dans des zones riveraines, qui connaissent peut-être plus de risques que celles qui vivent dans des zones forestières. Vous aurez peut-être à nous expliquer tout cela. Il est temps d'accorder la parole à M. Founa qui appelle de Calémie. M. Founa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oh, et quelle est votre question par rapport à ces sujets? Qu'est-ce que vous avez à nous dire en ce qui concerne les fleurs de l'environnement sur les maladies tropicales? C'est ça, notre sujet.
Moi, peut-être j'avais des petites préoccupations.
Oui.
La première est la suivante. D'où est l'origine du mot malaria? L'origine du mot malaria. Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'espèce plasmodiale qu'on aurait découvert, qu'on nous l'a dit. Où est-ce que nous en sommes?
Merci, monsieur Founa depuis Calémie, à Kisangani, monsieur Richard est en ligne. Bonjour, monsieur. Monsieur Richard, vous êtes en ligne depuis Kisangani?
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous écoute, quelle est votre question?
Ok, merci beaucoup pour l'occasion et merci à notre invité. J'avais une petite préoccupation. J'ai été au moins dans les hôpitaux de la place où on m'a fait des examens et on a trouvé que je n'ai pas la malaria. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'est-il possible, et surtout que nous vivons dans des endroits où nous sommes piqués par des moustiques, si néanmoins en chambre nous avons des moustiquaires, mais dehors, nous n'en avons pas. Est-ce qu'est-il possible qu'on puisse trouver quelqu'un sans malaria? C'était un peu ça ma préoccupation. Merci.
Merci Richard. Merci Richard depuis à Kisangani. Esther, Obedi nous appelle de Harou. Bonjour Esther.
Oui, bonjour Mathias. Bonjour à vous.
Allez-y, allez-y Esther, oui.
Merci. Chez nous au Congo, la malaria, c'est un problème sérieux de santé publique. Puisque les statistiques gardent toujours un nombre élevé de décès sous au Mali. En dehors de cela, on parle souvent à la gestion de l'environnement au niveau national, régional, voire même local. Cette question est loin d'être favorable à la santé. Alors, au niveau mondial, je voulais poser à notre institut. Est-ce qu'on n'a pas encore pensé à avoir un vaccin contre la malaria pour prévenir la malaria, parce que c'est trop pénible dans les mêmes places avec comme on dit pour la poliomyélite ou la fièvre jaunisse, on n'a pas encore passé à un vaccin contre la malaria.
Merci Esther Obedi depuis Aro, professeur Didier Bopangwe. Alors, il y avait ces questions sur l'origine de la malaria. Et puis, on a parlé d'une nouvelle espèce de plasmodium. J'ai pas bien compris cette nouvelle espèce, si vous êtes au courant de cela.
Ouais, moi, je vais faire répondre rapidement à ces trois questions. Donc, étymologiquement, c'est, vous l'avez dit simplement, mauvaise air, hein, malaria. Donc, c'est mauvaise air parce que à l'époque, c'était la théorie qui était la théorie, le mode de pensée qui était en vigueur, pensant que les maladies étaient liées aux mauvaises airs. Et souvent, on trouvait la malaria dans ces régions du sud de l'Europe, dans des zones de marais qui étaient assez mal entretenu, donc c'est mauvais air, donc du coup mauvais air, malaria est venu de là. Après les nouvelles espèces, oui, je pense que aujourd'hui avec tous les nouveaux outils de recherche moléculaire qu'on a, on continue à en découvrir. Donc la découverte des nouveaux germes aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, puisque on a beaucoup plus de moyens pour découvrir des nouveaux. Après sur
On peut vivre dans un pays où la malaria, vous l'avez dit, c'est vraiment endémique, oui. En RDC. Oui. Alors, on peut vivre, comme l'a dit ce détenteur de Kisangani, et lui, il était curieux, et il se sentait pas bien, il pensait que c'était la malaria, puis on fait des examens, on lui dit c'est pas la malaria, il se pose la question, c'est possible de vivre dans ce pays sans être même une fois, sans souffrir même une fois de la malaria.
Au fait, le problème, c'est que alors, si on vous trouve de la présence de plasmodium, ce n'est pas forcément que c'est cela qui est responsable de l'état dans lequel vous trouvez. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut avoir. Donc alors, on peut avoir de la fièvre, se sentir, avoir tous les symptômes comme si c'était de la malaria, mais que c'est autre chose, il va falloir chercher cela, et c'est toutes les recherches qui se font avec autour de des investigations sur ce qu'on appelle ces syndromes fébriles. Donc ces syndromes fébriles, donc il y a beaucoup d'autres causes à l'intérieur. Donc il est possible, oui. Effectivement, maintenant qu'il fait qu'on lui a dit que ce n'était pas cela, n'exclut pas non plus aussi que ça pouvait être cela, mais qu'il y a peut-être un déficit au niveau du plateau technique, et que donc voilà, c'est une autre hypothèse, donc au niveau du plateau technique n'est pas suffisamment au point pour mettre en évidence le problème qu'il avait. Donc l'un et l'autre sont possibles. Après, sur
Esther,
la question sur, oui. Sur le vaccin, moi j'aimerais simplement en profiter pour dire ici un peu, là je prends un peu ma position du scientifique et d'homme libre pour dire que une première chose, je pense que qu'on doit faire comprendre aussi aux populations que commencez d'abord par lutter avec les armes que vous avez. Donc vous voyez, si aujourd'hui un serpent rentre dans votre maison, si vous n'avez pas un fusil, vous avez un bâton à côté de vous. Donc prenez ce bâton, essayez de craser la tête du serpent avec le bâton, ne dites pas je n'ai pas de fusil, donc je me laisse faire. Donc les gens doivent arrêter de continuer à regarder le ciel et attendre des choses qui ne sont pas, même si elles sont, on aimerait bien les avoir, alors qu'il y a des comportements simples qu'il faut avoir, que les gens adoptent des attitudes propres. Dans nos villages, dans nos villes, dans les années 60, dans les années 50, nos villages étaient propres, nos villages étaient assainis. Donc mais aujourd'hui, on n'a pas le même niveau d'assainissement qu'on avait. À l'époque, il y avait des officiers d'hygiène qui venaient, qui donnaient des amendes aux gens. Qu'on recommence à faire cela. Et avec ça, déjà, on réduira énormément des choses. Donc après, pour revenir à sa question, c'est vrai, oui, il y a des recherches qui sont faites sur les vaccins, on espère les avoir. Mais qu'on arrête de penser que ça sera l'arme fatale qui va résoudre le problème de façon définitive.
Mais du moins, les recherches se poursuivent.
Les recherches se poursuivent, voilà. Il y a des très bonnes pistes. existe. Mais moi, j'aimerais simplement ici, en tant que scientifique et aussi en tant que citoyen, interpeller les gens, parce que faut pas qu'après les gens se mettent à harceler les pouvoirs et les dirigeants pour dire trouvez-nous cela. Donc j'ai pris le bel exemple en disant que si un serpent rentre dans votre maison, vous avez un bâton à côté de vous, ne dites pas je n'ai pas un fusil pour l'abattre. Mais utilisez le bâton que vous avez pour écraser la tête du serpent.
Voilà.
Et ces choses-là, c'est les mesures d'assainissement qu'on a toujours appliquées depuis l'époque.
Chabani nous appelle de Kindu. Bonjour Chabani.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Chabani. Quelle est votre question?
Bon, vraiment, je voulais savoir, parce que je vois que cette émission est vraiment importante et elle m'intéresse beaucoup. Chez nous, en RDC, effectivement, cette maladie, la malaria, tue plus que le sida et beaucoup de maladies aussi. Mais ce que nous constatons est que, bon, il y a des partenaires qui nous amènent des moustiquaires imprégnés. Oui, ça nous aide en chambre, mais quand on est à l'extérieur, on est piqué par les moustiques. Alors, je ne sais pas pourquoi nos partenaires ne peuvent pas changer la politique, nous assister à assainir notre environnement, que nous assister à nous envoyer toujours les moustiquaires imprégnés. Parce que c'est l'assainissement de l'environnement, c'est vraiment un problème chez nous. Il y a des nappes d'eau un peu partout. Et alors, ce qui fait que les moustiques puissent se développer et nous piquer à tout moment et nous amener la malaria.
Merci Chabani depuis Kindu, et puis on va se rendre à Danda, qui est une localité, je pense bien, dans les territoires de Dungu, et nous avons en ligne John. Bonjour John.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute John.
Ok, merci de m'avoir accordé. Alors j'ai deux petites questions. La première, c'est que je veux savoir quelle est la différence entre le moustique, le paludisme et la fièvre jaune. La deuxième question, c'est quelle est la meilleure prévention de la malaria? Quelle est la meilleure méthode pour prévenir contre la malaria? C'est ça les deux questions.
Merci John depuis Danda dans le territoire de Dungu. Pour ça, Didier, vous commencez d'abord par Chabani qui a dit c'est vrai, on sensibilise la population par rapport à l'utilisation de la moustique en point d'insecticide. Lui, il aurait bien aimé que les efforts soient plus orientés vers l'assainissement du milieu.
Oui, d'accord. J'aimerais dire simplement à notre compatriote qui nous appelle de Kindu, en fait, j'aurais aimé en fait lui répondre par une petite question. Nous avons cette mesure nationale, cette instruction nationale du salon de samedi. J'aimerais savoir, est-ce que lui poser une question s'il écoute, j'imagine qu'il a envie d'écouter. Est-ce que le samedi dernier, il a fait le salon autour de chez lui?
Bon, il n'est plus en ligne.
Ah, il n'est plus en ligne.
Continue.
Il n'est plus en ligne.
Il n'est plus en ligne, mais il continue à suivre.
J'aimerais savoir s'il avait fait le salon samedi dernier. Donc, simplement pour dire que moi, dans tout ce qui concerne, au-delà même de ce problème de paludisme, au-delà même de sa raison légitime de dire les partenaires nous apportent les moustiquaires, mais ils ne peuvent pas changer de stratégie. Mais le problème, c'est nous devons arrêter de continuer à penser que nos problèmes vont toujours être résolus uniquement par les partenaires. C'est vrai, on aura besoin des autres parce qu'on n'a pas, on ne peut pas toujours tout faire ensemble. Et puis le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. On a besoin de se mettre toujours tous ensemble. On est très content d'avoir tous ces partenaires. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on apprenne aux gens à poser les premiers actes positifs eux-mêmes. Donc voilà, c'est d'abord une première chose. Donc la moustiquaire, oui, le partenaire va changer de stratégie. Mais si autour de nous, chacun de nous n'adopte pas un comportement que je pourrais appeler environnementalement positif, eh bien, les partenaires peuvent toujours changer de stratégie, eh bien, les problèmes seront toujours là. Chacun doit faire sa part. Donc, même à l'hôpital, le médecin va vous, même en médecine curative, le médecin va vous prescrire une ordonnance, va prescrire des médicaments, il va vous les donner, mais ben, on vous dit, vous les prenez matin, midi et soir, mais si vous ne prenez pas vous-même les médicaments du soir, vous les jetez sous le lit, vous n'allez pas guérir. Donc, il y a une partie de la responsabilité qui a trait aux individus. Donc, à partir de là, moi, je n'aimerais pas ici regarder plutôt le côté partenaire. Avant de regarder les partenaires, j'aimerais donc interpeller le collègue qui a posé la question. Et donc, autour de lui, nous tous, Quelles sont les attitudes positives au niveau environnemental que nous avons et qui nous permettent de nous protéger contre les différentes maladies pour lesquelles nous nous plaignons et pour lesquelles nous disons qu'il faut en y partenir pour nous?
Et John, qui a cherché à savoir la différence entre paludisme et fièvre jaune.
Bah, donc voilà, donc il y en a un, le moustique s'appelle c'est un anophèle et l'autre c'est un aïdès. Donc c'est pas exactement le même moustique, même si après la même écologie, le même environnement peut permettre les deux de se reproduire, mais c'est pas exactement le même.
Et alors, la meilleure prévention contre la malaria?
Ben, la meilleure prévention pour la malaria, s'il faut dire là, j'aurais du mal à dire là, comme s'il y en avait sur plusieurs, il y en a une qui a plus. Je pense que c'est un ensemble, comme je disais tout à l'heure, c'est un ensemble de mesures qui partent donc des mesures individuelles jusqu'à des mesures beaucoup plus collectives qui vont nous permettre de nous protéger. Imaginons, si moi j'assainis tout autour de chez moi, alors je fais le salon autour du caniveau qui se trouve devant chez moi, j'ai fait tout ce que je dois faire, et si mon voisin à côté ne le fait pas, eh bien les moustiques ne vont pas s'empêcher de partir de chez lui vers chez moi. Donc en fait c'est un cocktail de mesures qui partent au niveau individuel, au niveau collectif, et puis au niveau beaucoup plus global de la gouvernance globale, qui vont permettre d'améliorer la situation. Je pense qu'on en a parlé dans les séquences antérieures.
Et cette dernière question, est-ce qu'il y a des maladies tropicales qu'on trouve plus dans les zones riveraines et d'autres dans les zones forestières?
Oui, bien sûr, on va trouver alors sur les zones riveraines. Alors ça dépend de, on parle de riveraines de quoi, du
ça dit, des gens qui vivent près de cours d'eau.
Près des cours d'eau. Alors, déjà les cours d'eau, puisque nous parlons environnement, nous parlons écologie, on aimerait être tout en étant simple, mais on veut pas non plus tomber aussi dans le simplisme. Mais simplement il faut retenir que tous les cours d'eau n'ont pas la même composition. Donc selon la nature chimique, via physico-chimique des cours d'eau, on va pas avoir les mêmes maladies. Imaginons par exemple, on va avoir des maladies qu'on va trouver beaucoup plus proches des lacs. Si on par exemple une maladie comme le choléra, mais vous allez les trouver dans les lacs de l'Est, parce que c'est là qu'on sent un peu beaucoup plus basique, mais vous n'allez pas les trouver dans les lacs qui sont à l'ouest, qui sont beaucoup plus acides. Donc c'est pas aussi simple que ça. Les cours d'eau, oui, vous allez, selon qu'un cours d'eau a un courant rapide ou a un courant plus lent, vous n'allez pas retrouver les mêmes maladies. Donc au fait, les cours d'eau et aussi les forêts, ces environnements, ça fonctionne comme des individus. Donc il y a un mode de vie, il y a un mode de fonctionnement, et il faut le connaître pour déterminer le type de maladie. Donc ça sera pas aussi simple de faire cela. Après, il y a des maladies qu'on va dire globalement qu'on va retrouver beaucoup plus en région forestière, ça on le sait, des maladies comme la variole du singe, comme les monkeypox, on va retrouver dans la variole du singe. Et bon, on sait aussi que les épidémies à virus Ebola, on les a trouvées beaucoup plus dans ces grandes régions. Donc, voilà, après dans les cours d'eau globalement, on sait que bon, tout ce qui va être lié un peu à l'eau, maladies diarrhéiques, donc si on peut faire simple, on peut avoir ces deux groupes. Mais c'est pas aussi simple que ça.
Merci professeur Didier Bopangwe. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en écologie des maladies infectieuses. Avez-vous en parlé de l'influence de l'environnement sur les maladies tropicales? Merci d'avoir été de notre.
C'est moi qui vous remercie.